Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. L'agence de renseignement d'État, BIN, se méfie du changement d'une stratégie de l'art terreur. Hikmahanto a dit, le gouvernement n'a pas besoin d'impliquer l'armée pour libérer les citoyens. Les ministres du Travail du G20 vont déclarer une déclaration ministérielle. La Banque d'Indonésie, BI, est sûre que la loi de l'amnistie fiscale ne sera pas annulée. Le commandant en chef de la police indonésienne a reçu la médaille d'honneur du gouvernement singapourien. Et enfin, l'ambassadeur américain a dit « L'Indonésie joue un grand rôle face à ISIS ». Voici le journal complet. L'agence de renseignement d'État, BIN, se méfie du changement d'une stratégie qui peut être fait par les auteurs d'actes terroristes aujourd'hui. Sutioso a dit lundi à Jakarta que le dernier cas de terrorisme à Solo, Java Central, lié à l'État islamique d'Irak et de Syrie, ISIS. Selon Sutioso, la possibilité d'actes terroristes en Indonésie est assez grande parce qu'il y a beaucoup de sympathisants de mouvements radicaux en Indonésie. Il a également demandé que le projet de loi antiterroriste doive être révisé afin de donner une occasion pour la police et l'intelligence d'agir rapidement. L'expert en droit international Hikmahanto Juwana a dit que le gouvernement n'a pas besoin d'impliquer les militaires pour libérer les citoyens de l'Indonésie qui sont actuellement détenus en otage dans le sud des Philippines. Selon lui, les opérations militaires auront des effets négatifs s'il y aura la prise d'otages contre des citoyens indonésiens. Hikmahanto Juwana a déclaré lundi à Jakarta que l'Indonésie pourrait être considérée comme un ennemi qui doit être combattu par des groupes armés. Il a souligné que la meilleure solution actuellement est de pourparler entre le gouvernement indonésien et les rebelles, sans impliquer l'argent de la rançon et de l'action militaire. Hikmahanto a suggéré le gouvernement n'est pas représenté par des hauts fonctionnaires de l'État, tels que le président ou le ministre, mais la direction de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques du ministère des Indonésiens des Affaires étrangères. Le ministre de l'Emploi, M. Hanif Dakhiri, espère que la réunion des ministres de la main-d'œuvre des membres du G20 à Pékin en Chine, tenue du 12 au 13 juillet 2016, encourageront la création d'emplois. Hanif Dakhiri a dit à Jakarta lundi que la réunion des ministres du Travail produira la déclaration ministérielle qui comprend les efforts visant à encourager la création de possibilités d'emplois adéquates, l'augmentation de l'emploi et du bien-travail. En outre, selon Hanif Dakhiri, la réunion a discuté de l'accord commun de la création de l'emploi et la politique macroéconomique qui soutient la politique à l'augmentation de l'absorption de la main-d'œuvre sur le marché du travail, les efforts du G20 pour améliorer la qualité de l'apprentissage et les principes de la politique de rémunération durable. La Réunion a également discuté des efforts conjoints pour mettre en place une stratégie de croissance économique et la planification de la main-d'œuvre qui est souhaitable d'être avantageuse du secteur de l'emploi dans leurs pays respectifs. La Banque d'Indonésie est optimiste que les politiques de l'amnistie fiscale peuvent être mises en œuvre, bien que cette loi sera poursuivie devant la Cour constitutionnelle. Le flux de fonds qui entre en Indonésie est encore grand. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, évalue à Jakarta lundi. Il est normal s'il y a la nouvelle loi, alors est poursuivie devant la Cour constitutionnelle. C'est parce que l'Indonésie est en paix de droit, il a permis si quelqu'un veut poursuivre. Il croit que le gouvernement et le Parlement ont préparé depuis le début. La discussion est plus prudente. Le commandant en chef de la police indonésienne, le général de police Badruddin Haiti, a reçu la médaille d'honneur de Distinguished Service Order du président singapourien, son excellence Tony Tan Keng Yam. Le chef chargé de l'information, le commissaire de police, a expliqué lundi au quartier général de la police que l'attribution avait été effectuée lundi au palais de Singapour. Cette médaille d'honneur est décernée avant la retraite du Badruddin Haiti, à la fin de juillet 2016. Martinus a affirmé que cette médaille d'honneur était décernée par le gouvernement de Singapour au commandant en chef de la police grâce à ses mérites d'améliorer la coopération bilatérale entre les polices des deux pays. L'ambassadeur américain en Indonésie, Robert O'Blake, a déclaré qu'actuellement, le groupe de l'État islamique d'Irak et de Syrie, ISIS, était toujours un défi majeur pour tous les pays, non seulement l'Indonésie. Mais l'Indonésie, comme le plus grand pays musulman au monde, peut jouer un rôle majeur en aidant la lutte contre ISIS. Robert Blake a déclaré lundi à l'ambassade américaine à Jakarta qu'en plus de la campagne militaire, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes pour faire face à ISIS, à savoir la promotion de messages de propagande répandus par ISIS à travers les médias sociaux. Selon Blake, l'Indonésie peut jouer un rôle dans cette affaire parce que, selon lui, l'Indonésie a une très grande communauté musulmane et modérée. Il a dit que les organisations religieuses telles que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah avaient une position importante pour empêcher les messages de propagande d'ISIS. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanté, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com. avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voequiz2016. voi.co.id.
Cinquième longtemps, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Jusqu'à quel moment l'Indonésie laisse ses citoyens d'être l'objectif de l'otage ?» Les marins indonésiens redeviennent la cible d'otages par des groupes armés étrangers. Cette fois, trois membres d'équipage indonésien ont été enlevés de leur navire dans les eaux de Sabah, en Malaisie. Cet incident est le cinquième au cours des trois derniers mois et il semble que personne n'a trouvé une solution concrète pour résoudre définitivement ce problème. Ce nouveau cas d'otage implique prétendument le groupe Abu Sayyaf. Sur la base des informations fournies par le commissaire de police de Sabah, Abdul Rashid Harun, le groupe qui enlève des équipages indonésiens portait des attributs militaires et les fusils de M14 et M16. Ce groupe armé aurait ordonné tout l'équipage à bord de recueillir, puis leur a demandé de collecter leur passeport. Ils ont tenu trois membres d'équipage avec des passeports indonésiens, mais libéré d'autres qui ne disposent pas de passeport. Les auteurs ont été reconnus comme groupe Apomike, une petite partie du groupe Abu Sayyaf. Beaucoup de gens indonésiens attendent la participation de l'armée indonésienne, TNI, pour résoudre ce cas. Mais le problème n'est certainement pas aussi simple que cela. TNI doit attendre les instructions du gouvernement. Jusqu'à présent, le commandant en chef de TNI, Gatot Nurmantio, s'efforce encore la libération de sept ressortissants indonésiens retenus en otage par un groupe militant aux Philippines. L'armée indonésienne ou TNI ne peut pas simplement entrer sur le territoire des Philippines pour libérer les otages car il implique la souveraineté du pays voisin, membre de l'ASEAN. En effet, l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont convenu de mener une patrouille conjointe dans les eaux séparant trois pays et sont souvent devenus le lieu où le groupe Abu Sayyaf mène leurs actions. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'action concrète concernant ce sujet. Pendant ce temps, TNI et le gouvernement indonésien cherchent des moyens pour libérer les sept otages restants. Sortissants indonésiens aux Philippines, à Sabah, en Malaisie, trois citoyens indonésiens ont été pris en otage par d'autres groupes militants. Donc, le gouvernement indonésien a demandé à la Malaisie d'être responsable parce que l'incident est survenu sur le territoire de la Malaisie. Pas étonnant, beaucoup de gens ont demandé au gouvernement d'agir de manière décisive pour réprimer la prise d'otage du groupe Abu Sayyaf. Séparé de la complexité diplomatique sur la question des otages, le gouvernement doit immédiatement agir fermement. Jusqu'à quand cette nation laisse ses citoyens d'être l'objectif d'otages d'autres parties? Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 12 juillet 1947, la journée de la coopérative nationale. Coopérative était introduite en Indonésie par R. Arya Wiraatmaja à Purwokerto, Java Central, en 1896. Il établit une coopérative de crédit dans le but d'aider les gens qui ont des dettes avec les usuriers. La coopérative se développe bien et finalement imitée par Budi Utomo et syndicat de commerce islamique. En 1942, le Japon a occupé l'Indonésie et a fondé la coopérative à Kumiai. Après l'indépendance de l'Indonésie, le 12 juillet 1947, le mouvement coopératif en Indonésie a tenu le premier congrès coopératif à Tasikmalaya et désigné comme la journée des coopératifs indonésiens. Le but de la création de la coopérative est pour le bien-être de ses membres. Le 12 juillet 1975, le Monument National au Monas a été officiellement ouvert au public. Le monument national en indonésien, Monument National Monas, est le monument commémoratif de 132 mètres de haut situé au centre de Jakarta. Il est construit pour commémorer la lutte des populations indonésiennes pour l'indépendance de la domination coloniale néerlandaise. La construction du monument a été commencée le 17 août 1961 sous les ordres du président Sukarno. Ce monument est symbole de l'esprit de lutte ouvert tous les jours. Le 10 juillet 1998, l'équipe de France de football remportait la Coupe du Monde face au Brésil. La Coupe du Monde de football en 1998 est une compétition sportive internationale qui s'est déroulée du 10 juin jusqu'au 12 juillet 1978 en France. C'était la 16e Coupe du Monde de football et la 2e en France après 1938. L'équipe de France de football, ou les Bleus, gagne la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire après une finale gagnée 3 buts face au Brésil, champion du monde en titre. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point. Un hélicoptère de l'armée de terre a écrasé le 8 juillet à Sleman, Yogyakarta, Java Central, a tué 3 passagers et 3 autres sont blessés. Après la chute de l'hélicoptère, le membre de la commission 1 du Parlement, M. Charles Honoris, a déclaré samedi à Jakarta que le contrôle strict du système principal d'armement défensif ou Alutsista était très important pour minimiser les risques d'accidents en cours de fonctionnement. Le but est de faire la défense du pays plus professionnelle et fonctionnement correctement. Charles Honoris a demandé au gouvernement de l'Indonésie via le ministère de la Défense et des Forces armées de continuer de tester la faisabilité du système d'armement principal, notamment les équipements de la défense aérienne, des avions et des hélicoptères pour empêcher l'accident d'avion à l'avenir. Cela peut provoquer une mauvaise image pour la défense de l'Indonésie dans le monde. La même chose est aussi demandée par le membre de la commission 1 du Parlement, M. Sukamta. Il a dit à Jakarta samedi qu'il a plusieurs fois insisté le gouvernement à évaluer son alutsista régulièrement. L'évaluation de la faisabilité des équipements de défense doit être faite parce qu'il y a la possibilité que le système d'armes ne pouvait pas être utilisé, ce qui provoque un accident en cours de l'utilisation. Concernant l'accident de l'hélicoptère vendredi dernier, Sukamta a insisté le gouvernement à mener une enquête et d'émettre une déclaration officielle sur la cause de l'accident. Il est nécessaire afin d'éviter des confusions. Auparavant, le chef du département de l'information de l'armée de terre, le général de brigade Sabrar Fadila, a déclaré que l'hélicoptère Bell 205A1 appartenant de l'armée de terre qui est tombé à Sleman, Yogyakarta, est fabriqué aux États-Unis. Il a également déclaré qu'il a formé une équipe d'enquête pour enquêter la cause de l'accident hélicoptère en Sleman, Yogyakarta. Chers amis, c'est la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'agence de renseignement d'État, BIN, se méfie du changement d'une stratégie qui peut être faite par les auteurs d'actes terroristes aujourd'hui. Sutioso a dit lundi à Jakarta que le dernier cas de terrorisme à Solo, Java Central, lié à l'État islamique d'Irak et de Syrie, ISIS. Selon Sutioso, la possibilité d'actes terroristes en Indonésie est assez grande parce qu'il y a beaucoup de sympathisants de mouvements radicaux en Indonésie. Il a également demandé que le projet de loi antiterroriste doive être révisé afin de donner une occasion pour la police et l'intelligence d'agir rapidement. L'expert en droit international Hikmahanto Juwana a dit que le gouvernement n'a pas besoin d'impliquer les militaires pour libérer les citoyens de l'Indonésie qui sont actuellement détenus en otage dans le sud des Philippines. Selon lui, les opérations militaires auront des effets négatifs s'il y aura la prise d'otages contre des citoyens indonésiens. Hikmahanto Juwana a déclaré lundi à Jakarta que l'Indonésie pourrait être considérée comme un ennemi qui doit être combattu par des groupes armés. Il a souligné que la meilleure solution actuellement est de pourparler entre le gouvernement indonésien et les rebelles, sans impliquer l'argent de la rançon et de l'action militaire. Hikmahanto a suggéré que le gouvernement n'est pas représenté par des hauts fonctionnaires de l'État, tels que le président ou le ministre, mais la direction de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques du ministère des Indonésiens des Affaires étrangères. Le ministre de l'Emploi, M. Hanif Dakhiri, espère que la réunion des ministres de la main-d'œuvre des membres du G20 à Pékin, en Chine, tenue du 12 au 13 juillet 2016, encourageront la création d'emplois. Hanif Dakhiri a dit à Jakarta lundi que la réunion des ministres du Travail produira la déclaration ministérielle qui comprend les efforts visant à encourager la création de possibilités d'emploi adéquates, l'augmentation de l'emploi et du bien-travail. En outre, selon Hanif Dakhiri, la réunion a discuté de l'accord commun de la création de l'emploi et la politique macroéconomique qui soutient la politique à l'augmentation de l'absorption de la main-d'œuvre sur le marché du travail, les efforts du G20 pour améliorer la qualité de l'apprentissage et les principes de la politique de rémunération durable. La réunion a également discuté des efforts conjoints pour mettre en place une stratégie de croissance économique et la planification de la main-d'œuvre qui est souhaitable d'être avantageuse du secteur de l'emploi dans leurs pays respectifs. La Banque d'Indonésie est optimiste que les politiques de l'amnistie fiscale peuvent être mises en œuvre, bien que cette loi sera poursuivie devant la Cour constitutionnelle. Le flux de fonds qui entre en Indonésie est encore grand. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, évalue à Jakarta lundi. Il est normal s'il y a la nouvelle loi, alors est poursuivi devant la Cour constitutionnelle. C'est parce que l'Indonésie est un pays de droit, il a permis si quelqu'un veut poursuivre. Il croit que le gouvernement et le Parlement ont préparé depuis le début. La discussion est plus prudente. Le commandant en chef de la police indonésienne, le général de police Badruddin Haiti, a reçu la médaille d'honneur de Distinguished Service Order du président singapourien, son excellence Tony Tan Keng Yam. Le chef chargé de l'information, le commissaire de police, a expliqué lundi au quartier général de la police que l'attribution avait été effectuée lundi au palais de Singapour. Cette médaille d'honneur est décernée avant la retraite du Badruddin Haiti à la fin de juillet 2016. Martinus a affirmé que cette médaille d'honneur était décernée par le gouvernement de Singapour au commandant en chef de la police grâce à ses mérites d'améliorer la coopération bilatérale entre les polices des deux pays. L'ambassadeur américain en Indonésie, Robert O'Blake, a déclaré qu'actuellement, le groupe de l'État islamique d'Irak et de Syrie, ISIS, était toujours un défi majeur pour tous les pays, non seulement l'Indonésie. Mais l'Indonésie, comme le plus grand pays musulman au monde, peut jouer un rôle majeur en aidant la lutte contre ISIS. Robert Blake a déclaré lundi à l'ambassade américaine à Jakarta qu'en plus de la campagne militaire, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes pour faire face à ISIS, à savoir la promotion de messages de propagande répandus par ISIS à travers les médias sociaux. Selon Blake, l'Indonésie peut jouer un rôle dans cette affaire parce que, selon lui, l'Indonésie a une très grande communauté musulmane et modérée. Il a dit que les organisations religieuses telles que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah avaient une position importante pour empêcher les messages de propagande d'ISIS. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la boucle suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Chers fidèles amis, La Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de Pesan Indonesia ou magazine de la culture. Et pour ce soir, nous allons vous emmener dans le voyage culinaire à la ville de Brebes, qui se situe en province de Java Central. Alors, restez avec nous au RRI World Service La Voix de l'Indonésie. Vous pouvez écouter non seulement par en courte sur 9525 kHz ou bien avec le streaming www.voi.co.id. Chers amis, la ville de Brebes est un quartier dans le centre de Java. qui est directement adjacente à la ville de Cherbourg en province de Java de l'Ouest. Pour Brebes, l'oignon rouge est un icône commerciale parce que Brebes est le plus grand producteur de l'oignon en Indonésie. Le centre de producteurs de l'oignon se disperse dans 11 districts de 17 districts de Brebes, avec la superficie récoltée par an 20 000 à 25 000 hectares. Outre d'être connu en tant que producteur de l'oignon, la ville de Brebes a également de nombreuses destinations touristiques attrayantes. Donc pour ceux qui sont en vacances en Indonésie, allez visiter la ville de Brebes et profitez de sa beauté et sa singularité. Pour ceux qui se sont rendus visite à Brebes, de ne pas oublier d'essayer la gastronomie typique à cette région. On doit essayer le saté blengong, ou on peut dire le kebab traditionnel de Brebes. Le saté est des aliments à la base de viande en petits morceaux, puis poignardé avec le bâton de bambou et brûlé ou grillé avec le charbon de bois. Étant donné le nom de blengong car il est fabriqué à partir de la viande de blengong. Blengong, c'est-à-dire le volaille qui est combiné ou mixé et mariagé entre le canard et avec un rache de canard local. En Brebes, la population de volaille est tout à fait beaucoup parce que beaucoup de gens locaux qui gardent le blengong. Par rapport à la viande de canard sauvage et le canard domestique, sa viande a la texture plus douce et non poisson. Chers amis, la saté blengong est différent que les autres satés ou brochettes. Les satés blengong provenant de tiges de bambou qui sont de coupe plus grande et plus longue. La viande est présentée comme la taille d'un pouce. Dans une brochette, il y a seulement 7 morceaux de viande. En outre, il dispose aussi de taux de type de variante saté blengong. Le premier, le saté blengong grillé, est celui en cuit. Saté grillé, c'est-à-dire cuit par le feu avec le charbon comme en général. Cependant, faire cuire le brochet, la viande bouillie avec la noix de lait de coco, ajouter 20 herbes et poignarder avec une longueur de bâton de bambou. Servi aux amis comme saté en général, le saté de blengong est servi avec la sauce au arachide. Pour être plus délicieux, le saté est mangé avec kupat, c'est-à-dire ketupat. Le kupat est fabriqué par la base de riz cuit en emballant avec le veille de bananier. Le kupat ou ketupat servi avec un peu de lait de noix de coco et qui n'est pas si épais est donné avec une variété d'épices. Puis sur le dessus de celui-ci, ou c'est-à-dire le plat, on met le craqueline avec des oignons frites. Ce culinaire est facile à trouver dans la ville de Brebes, par exemple dans le parc de la ville de Brebes. Pour le prix, le coût de saté blengong grillé est 60 000 rupiah ou à peu près 2,5 euros pour 20 brochettes. Cependant, pour le saté blengong en cuit, coûte 6 000, c'est-à-dire 6 000 rupiah, c'est-à-dire 1,5 euro par brochette, et le prix de ketupat est 12 000 par portion, c'est-à-dire moins de 1 euro. Chers amis, c'était le magazine de Poste Indonesia ou magazine de la culture édition de mardi avec le thème Le Satay Blengong de la ville Brebes. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir. À demain.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne qui vous guide de parler indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est mencari tukang, ou en français, cherche de réparateur. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Nombre de téléphone. Nombre de téléphone. En français, numéro de téléphone. Tukang service. Tukang service. En français, réparateur. Membutuhkan. Membutuhkan. En français, avoir besoin de. Kamar. Kamar. En français, chambre. Rusak. Rusak. En français, cassé. Câble. Câble. En français, câble. Putus. Putus. En français, rompu. Menggunakan. Menggunakan. En français, utiliser. Compor. Compor. En français, poêle. Rusak. Rusak. En français, cassé. Pompa air. Pompa air. En français, pompe à eau. Repot. Repot. En français, gênant ou occupé. Pembantu. Pembantu. En français, femme de chambre. Peralatan. Peralatan. En français, équipement. Buka. Buka. En français, ouvrir. Coba. Coba. En français, essayer. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Mencari tukang ou chercher de réparateur. Je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Cette conversation est entre Mary A et Nita B au bureau. A. Apakah kamu punya nomor telepon tukang service? Apakah kamu punya nomor telepon tukang service? En français, avez-vous le numéro de téléphone de réparateur? B. Kamu membutuhkan tukang service apa? Kamu membutuhkan tukang service apa? En français, quel réparateur nécessitez-vous? A. Saya mencari tukang servis AC. Saya mencari tukang servis AC. En français, je cherche le réparateur de climatiseur. AC kamar saya rusak. AC kamar saya rusak. En français, le climatiseur de ma chambre est cassé. Selain itu, saya juga membutuhkan tukang servis microwave. En français, d'ailleurs, j'ai besoin aussi de réparateur de micro-ondes. Microwave saya kabelnya putus. En français, le câble de mon micro-ondes est rompu. B. Bukankah kamu masih bisa menggunakan kompor? En français, vous pouvez utiliser la poêle, n'est-ce pas? A. Saya juga mencari tukang servis kompor. En français, je cherche aussi le réparateur de poêle. Kompor saya juga rusak. En français, mon poêle est aussi endommagé. Saya juga mencari tukang servis pompa air. En français, je cherche aussi un réparateur de pompe à eau. B. Pasti kamu sangat repot. En français, bien sûr, vous êtes très occupé. Tidak ada pembantu, banyak peralatan yang rusak. En français, aucune femme de chambre, une grande partie de l'équipement était cassé. Ini nomor telepon yang kamu butuhkan. En français, c'est le numéro de téléphone que vous avez besoin. Tapi mungkin belum semua mulai buka. En français, mais peut-être pas tous commencent à ouvrir. A. Tidak apa-apa. En français, ça ne fait rien. Saya akan coba. En français, je vais essayer. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter une jeune chanteuse nommée Dewi Sandra. Voici la chanson de Dewi Sandra intitulée « Tak Ingin Lagi ». Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, la chanson intitulée « T'aïn Lagi » raconte une fille qui décide de quitter son amant qui a manqué à la promesse à plusieurs reprises. C'était la parole de la chanson de Devi Sandra qui a sorti en 2000. Le deuxième album de Devi Sandra a le genre R&B comme l'album précédent. Cette chanson a remporté le prix d'Ami pour le meilleur album R&B en 2021. Une chanteuse sans langue britannique indonésie a commencé sa carrière dans le monde du divertissement comme un modèle à l'âge adolescent. En plus de chanter, Devi a également essayé sa capacité en tant que présentatrice. Sa capacité à diriger le programme Clear Top 10 a remporté le prix de musique de Panasonic comme Female Favorite pendant 5 années consécutives de 1999 à 2003. Bon, écoutons maintenant la deuxième chanson de Devi Sandra intitulée Aku Pulang. Bonne écoute.
Kamu menganggap bahwa Tuhan telah mendukung kamu. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Dan kamu merasa berhak untuk membalas dan meninggalkannya.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse indonésienne, Dewi Sandra. La chanson intitulée Aku Ingin Pulang raconte l'expérience spirituelle d'un homme sur le Créateur. Contrairement aux chansons de Dewi Sandra qui ont le genre R&B, la chanson Aku Ingin Pulang est la bande sonore du film intitulé Haji Backpacker en 2014 où Dewi est l'une des actrices de ce film. Depuis qu'elle décide de porter le hijab en 2013, cette artiste est plus sélective dans le choix des chansons. Dewi, qui était vite du monde du divertissement, apparaît et est impliquée dans un certain nombre de films et a lancé le single. En 2015, elle a lancé un nouveau single intitulé « Air Mata Surga » qui est également la bande sonore du film avec le même titre. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Dewi Sandra intitulées « Air Mata Surga » et « Sesa ». Bonne écoute et à bientôt.
Aku relakan kau bersama dengan yang lain. Kesalahanmu menyakitiku saat cinta bersemi di hatiku. Maafkan aku, rela sakit di hatimu.
Chers auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.